Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Cameroun, Franck Mauroy, un défenseur camerounais des droits humains, est porté disparu depuis près de mois alors qu'il enquêtait dans la région anglophone du sud-ouest, théâtre d'un conflit ouvert entre des séparatistes et l'armée camerounaise. Sa compagne Stéphanie Flore Ngiedie-Nkangé dit que ses numéros de téléphone ne sont plus joignables depuis le 13 août et que personne ne lui a parlé depuis le 6 août, date où il a quitté Douala, la capitale économique du Cameroun, pour Koumba, petite ville du sud-ouest anglophone située dans la zone épicentre des conflits. Franck Mauroy est le président de l'association de défense des droits de l'homme Frontline Fighters for Citizens' Interest, basé à Bamenda, dans le nord-ouest anglophone. Selon Théophile Nono, du mouvement des paysans associés du Cameroun, où milite également le disparu, son voyage à Koumba était le deuxième effectué ces derniers mois dans le cadre d'une mission de recensement des déplacés de la guerre qui fait rage dans les régions anglophones. Les combats entre militaires et séparatistes y sont devenus quasi quotidiens et 109 membres des forces de l'ordre et de sécurité ont perdu la vie dans ces affrontements, selon le gouvernement camerounais, qui n'a pas fait de commentaire sur l'affaire Mauroy. La Chine accueille aujourd'hui des dirigeants de 53 pays d'Afrique pour un sommet célébrant la coopération économique entre le géant asiatique et le continent africain. Pendant deux jours, le 7e forum sur la coopération sino-africaine réunit dans la capitale chinoise de nombreux chefs d'État et de gouvernement, parmi eux l'Ivoirien Alassane Ouattara, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa ou encore le Congolais Denis Sassou Nguesso. Le sommet est l'occasion pour le président chinois Xi Jinping de célébrer ses nouvelles routes de la soie. Lancée en 2013, cette initiative vise à développer la connectivité commerciale de la Chine avec le reste du monde et à sécuriser ses approvisionnements. L'Iswatini, ex-Swaziland, est le seul pays africain manquant à l'appel. Dernier allié en Afrique de Taïwan, il rival du régime chinois, cette monarchie d'Afrique australe n'a pas été invitée à l'événement. Les investissements chinois en Afrique maintenant, Pékin a signé plusieurs conventions avec les dirigeants de la Guinée et intervient dans plusieurs domaines dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le secteur minier. Mais la présence de la Chine en Guinée ne fait pas que des heureux, nous dit notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
La Chine, l'une des nombreuses destinations du président guinéen. Alpha Condé y a obtenu plusieurs accords, des accords économiques mais aussi techniques. L'un des derniers actes officiels entre les deux pays est une assistance pour l'appui à la sécurité alimentaire, chiffrée à 6 millions de dollars et signée samedi en marge du forum sur la coopération Chine-Afrique. Dans le pays, le Made in China est sur presque toutes les lèvres, mais qu'en disent les Guinéens? D'abord, les réponses de quelques vendeurs rencontré à Madina, le grand marché de Conakry.
Ils font des commandes que nous autres ne pouvons pas faire. Et quand ils amènent leurs commandes, ils revendent à un prix plus bas que nous on peut revendre ici.
Non, c'est pas la même qualité. Les produits turcs, les produits indiens, c'est plus fort que les produits chinois. Comme les pompes, là, ça, les produits turcs, les produits indiens, ça absorbe plus que les produits chinois. Quoi.
Chez certains consommateurs de produits chinois, il n'y a pas lieu de se plaindre, car il y en a pour toutes les bourses.
Avec la marque chinoise, tout le monde peut avoir actuellement un Android. Même si ce n'est pas garanti, mais ça me permet de faire beaucoup de choses, parce que je n'ai pas les moyens de m'offrir un téléphone de grande marque.
Mamadou Saliou évolue dans la vente de téléphones de marque chinoise. Il dit ne pas se sentir protégé par le contrat qu'il a passé avec les Chinois.
Les Chinois avec lesquels nous travaillons depuis plusieurs années n'avons pas un contrat d'exclusivité dans le travail. Il faut à chaque fois avoir un contrat de 2 ans, dans lequel contrat on te dit clairement que les produits qu'on te fournit, on a la latitude de les fournir à autant d'autres personnes aussi. Ça veut dire que tu n'es pas protégé.
Le secteur minier guinéen est dynamique depuis quelques années et la Chine en entend y prendre sa place. En janvier, la société chinoise Tebia obtient un accord d'investissement dans le domaine de la bauxite et de l'alumine. Il y a quelques mois seulement, la Guinée et Chalco, filiale du groupe Chinalco, ont signé une convention minière de 15 ans. Vraisemblablement, c'est la conséquence d'un accord cadre de prêt d'un montant de 20 millions de dollars signé l'année dernière entre la Chine et la Guinée. Selon plusieurs sources proches de ce dossier, la Guinée, qui obtient ce financement destiné à la réalisation d'infrastructures, va assurer aux entreprises chinoises des concessions minières au titre de contrepartie. Le chinois en Guinée, c'est aussi l'exploitation de bois dans le sud du pays. La coupe de bois dans cette partie de la Guinée est contestée. Les communautés ont même créé une association. Docteur Mamadi Onivogui est le chargé de communication de Touche pas ma forêt.
Nous nous sommes rendus compte que dans le temps du général Antonin Conté, le contrat visait l'exploitation des forêts périurbaines. Mais maintenant, c'est tout dernièrement avec les manques de matières premières que subissait la société. La société aurait demandé au gouvernement guinéen de signer maintenant le protocole d'accord pour l'exploitation des deux forêts classées de Ziamen et de Djéki. C'est ce qui a fait mal à toute la jeunesse guinéenne et plus particulièrement celle de la forêt. D'où la mise en place du collectif Touche pas ma forêt pour défendre les deux forêts.
Ziama et Djéki sont deux forêts classées. Leurs défenseurs tirent la sonnette d'alarme sur d'éventuels crimes écologiques. D'autres parlent de menaces pour l'écosystème. Sur plus de 200 éléphants, il n'en reste qu'une vingtaine, alerte le porte-parole de Touche pas à ma forêt. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élections en Mauritanie, l'opposition crie à la fraude alors que les résultats des élections législatives, régionales et locales de samedi se font attendre. Prévu hier soir, les premiers chiffres officiels devraient maintenant être publiés ce lundi ou même demain mardi. Jean-Roger Bion.
L'opposition mauritanienne accuse le pouvoir en place de recourir à ce qu'elle qualifie de fraude massive caractérisée, entre autres, par la manipulation des bulletins de vote, le vote multiple et le bourrage d'urnes. Le chef de la coalition électorale de l'opposition, Mohamed Ould Mouloud, s'en est également pris à la commission électorale, accusant ses membres d'être partisans et mal formés. Accusation rejetée par le porte-parole de la CENI, Mustapha Ould Sid El Mokhtar, qui attribue le retard dans la publication des résultats à la complexité du vote et aux pluies diluviennes qui ont isolé certaines contrées du pays. Le scrutin de samedi a attiré un nombre record de 98 partis politiques, dont ceux de l'opposition radicale qui avaient boycotté les législatives de 2013. Selon la CENI, le taux de participation tendait vers 70%. Les analystes considèrent ce scrutin comme un test pour le président Mohamed Ould Abdelaziz, bien qu'il se soit engagé à ne pas modifier la constitution afin de se représenter en 2019. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, il a été élu en 2009 et réélu en 2014.
Politique au Mali maintenant, des milliers de partisans du président malien Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka ont manifesté dimanche à Bamako, la capitale, pour soutenir le chef de l'État 2 jours de sa prestation de serment et au lendemain d'une marche de l'opposition. En effet, l'opposition, réunie autour de son candidat malheureux au second tour, Somaïla Cissé, dit avoir réussi samedi ce qu'elle a appelé la plus forte mobilisation depuis la réélection du président Ibeka, dont elle conteste toujours la victoire. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, a suivi ces deux manifestations.
L'opposition était à sa 4e marche de contestation et de dénonciation de la fraude électorale. En plus de Soumaïla Cissé, 8 autres candidats malheureux de la présidentielle de juillet et août dernier étaient à la marche du samedi. Pour Soumaïla Cissé, le peuple malien est en colère contre la communauté internationale.
À l'ensemble de la communauté internationale, de faire attention à la colère du peuple. Un peuple en colère, c'est quelque chose de dangereux. Il faut l'écouter à temps, le peuple malien. Il est en colère parce qu'on a volé son vote. Il est en colère parce que le mensonge devient la vérité dans notre pays.
Contre toute attente, hier dimanche, les partisans d'Ibeka ont envahi les rues de Bamako. Cette marche est une initiative du Conseil national de la jeunesse du Mali, des associations des jeunes leaders musulmans réunis dans une coalition dite des patriotes.
Tout à fait. Moi, en tant que membre de la société civile, j'ai été dans tout le combat de ce pays. Et c'est normal que je sois là aujourd'hui. Défendre nos institutions, on est en démocratie, parce que la démocratie malienne est une démocratie exemplaire.
Avec cette crise, une médiation est en cours, afin de faire asseoir les deux camps autour d'une même table. Les médiateurs espèrent rencontrer le président Ibeka ce lundi, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, la dépouille du sénateur John McCain a été inhumée dimanche à l'Académie navale d'Annapolis dans l'État du Maryland au terme d'une semaine d'hommage national pour ce vétéran de la politique américaine décédé le 25 août à l'âge de 81 ans. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.